Bonjour. Eh bien, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 15, s'il vous plaît. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera vous aussi, mais si vous ne leur pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Cette prière que Jésus nous a donnée, il nous l'a donnée comme le modèle parfait de la prière. Dans l'évangile de Matthieu, elle est un exemple à suivre, hein. Donc vous priez, donc voici vous comment vous devez prier. Dans Luc, elle devient plutôt une formulation possible. Quand vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux. Alors, des gens, ils font que le Notre Père parce qu'ils pensent que voilà, c'est la seule chose à faire. Enfin. Donc, on peut dire que cette prière telle qu'elle est, on peut s'en inspirer ou la dire comme ça, ou on peut s'en inspirer pour formuler nos propres prières. Alors, on a parlé des prières des pharisiens, on a parlé des prières des païens, et dans la prière que Jésus nous donne là, on est tout de suite placé très clairement dans une position juste. Nous ne sommes pas en face d'un Dieu qui aime les incantations répétitives. Non. Jésus nous le présente comme notre Père qui est aux cieux. Il est donc une personne. Une personne. On peut le situer comme une personne puisque nous aussi, nous sommes des personnes. Alors évidemment, Dieu dépasse largement notre concept de personne. Mais bon, il est une personne. Il est la personne qui nous a créés. Il est la personne de qui nous venons. Nous sommes ses fils, nous sommes ses filles. Et Dieu accomplit parfaitement sa paternité dans son amour pour les siens. Il est amour, mais il est aussi grand, il est juste, il est puissant. Mais il n'est pas un père indigne. Il n'est pas un père cruel, terrifiant ou cruel. Jésus veut la vérité. Alors, nous avons à nous présenter devant Dieu, notre Père, et on ne se présente pas devant notre Père comme on se présente devant un copain. J'entends souvent des gens qui disent: Ah, mais moi, Dieu, alors je lui ai dit, hein. Bon, mais c'est quoi ce cirque-là? Il nous faut du respect. Il est bon avant de prier notre Père. Rappelez le mot respect, c'est regarder en arrière, se souvenir de qui il est et de qui nous sommes. J'aime pas non plus du tout qu'on se présente de Dieu en lui hurlant: Dieu, tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je ferai ce qu'ils demandent. Alors aujourd'hui, Père, à maintenant, à l'instant même, qu'est-ce que c'est ce cirque? Quand on se souvient qu'il est notre Père céleste, on s'adresse à lui avec humilité, avec confiance, mais avec consécration, avec l'humilité qui convient, le respect. Ça nous oblige à nous souvenir que ce sont ses préoccupations qui sont importantes. C'est son nom, son règne, sa volonté. Vous avez lu le Notre Père? Puis nos besoins, ben c'est en deuxième position, hein. Pardonne-nous, donne-nous, délivre-nous, c'est en deuxième position, vous voyez. Il y a deux parties dans cette prière. Et on s'en aperçoit seulement si on considère, rappelez-vous le mot considérer, c'est-à-dire regarder attentivement. La première chose, c'est celle qui se rapporte à la gloire de Dieu. La deuxième chose, celle qui exprime nos besoins de fils de Dieu, de fille de Dieu. Alors, si vous regardez les 10 commandements, c'est la même chose. Les 5 premiers se rapportent à la gloire de Dieu et les 5 derniers à ce que nous avons comme devoir envers les humains. Alors, le nom de Dieu. Jésus a dit: Je suis venu leur révéler ton nom. Alors, je ne vais pas rentrer de nouveau dans toute cette explication de choses. Vous avez à peu près 440 et quelques prédications sur révélation Bible pour aller comprendre ces choses. Le nom de notre Dieu, c'est Jésus. Voici un enfant vous est né, on l'appellera Conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père Éternel. Voilà, le nom de notre Dieu, c'est Jésus. C'est le nom d'une personne. Ce n'est pas le nom d'un Dieu impersonnel. Son nom désigne sa personne, ses activités personnelles, sa personne. Son nom saint, il est saint dans le sens qu'il est au-dessus de tout nom. Alors comment est-ce qu'on peut, nous autres, le sanctifier, nous, ses enfants? Eh bien, en manifestant notre désir de voir Dieu reconnu en tant que Dieu. En manifestant notre désir que son nom soit honoré dans notre vie, premièrement. En désirant que le nom de Jésus soit honoré dans et par notre communauté, son Église, et que son nom soit honoré dans le monde. Alors, le projet de notre Père Céleste, c'est le royaume. Alors, il est déjà saint, mais il est déjà roi aussi. Il règne sur la nature, il règne sur l'histoire, il règne. Et quand on écoute bien ce que Jésus dit, on comprend que la loi de Dieu va se faire connaître d'une manière nouvelle, spéciale, et qu'elle sera accompagnée de bénédictions, mais aussi d'exigences absolument nouvelles. Alors, demander que son règne vienne, c'est vouloir qu'il s'étende. En fait, c'est demander que, par notre intermédiaire, ce monde puisse venir à Jésus, et que finalement, Jésus vienne visiblement pour y régner. Voilà ce que ça signifie. C'est une folie que de vouloir résister à la volonté de Dieu. Elle est bonne, parfaite et agréable. C'est ce que nous dit Paul au Romains 12, verset 2. Et c'est à nous d'apprendre à discerner, à désirer et à accepter cette volonté et à se mettre à la faire. Encore en ce moment, c'est le diable qui règne ici-bas. Mais il règne ici-bas parce que Dieu le veut bien. Parce que ça fait partie du plan de Dieu. Dieu n'a pas perdu une bataille. Ça fait partie du plan de Dieu. Dieu régnant autorise que ça soit arrivé ainsi. Mais bientôt, le diable et ses suppôts vont être détruits tous, absolument tous. Et le règne de Dieu sera sur la terre comme au ciel, sans aucune ombre. Voilà ce que nous attendons. Et voilà pourquoi on prie cette prière. Alors, cessez donc de glorifier le nom de votre Église ou votre propre nom. Ce nom que vous aimez à mettre sur vos papiers en tête, le nom de votre dénomination religieuse que vous aimez mettre sur votre carte visite. Seul le nom de Jésus doit être glorifié. Ou alors, il ne faut plus vous inspirer de cette prière pour prier. Et il ne faut plus faire de prière dans le style de notre Père. Deuxième, il faut même pas prier du tout, il faut même plus prier du tout parce que vous tombez dans le truc des pharisiens ou des païens dont on a parlé les dernières fois. Il faut entrer dans cette volonté. C'est seulement le nom de Jésus qui doit être élevé et glorifié. Les autres noms sont des noms de blasphème en fait. S'ils se mettre à la place du nom de Dieu. Alors Dieu est bon, et après avoir glorifié Dieu, nous avons le droit de venir confesser notre humble dépendance, nos besoins. Nos besoins sont existants. Et ne pas vouloir mentionner nos besoins dans nos prières sous prétexte que Dieu a d'autres chats à fouetter, c'est aussi impertinent que de ne faire que des demandes à Dieu sans jamais louer son nom sans jamais le glorifier. Vous voyez ? Je désire que nous fassions sa volonté. Il désire que nous fassions ce qu'il veut. Il veut qu'on lui fasse part de nos besoins, de notre attente, de nourriture, de pardon, de délivrance du mal. Quand Jésus parle du pain quotidien, en fait, il parle réellement du vrai pain quotidien, pas du pain du ciel ou du pain de la Sainte-Seine. Vous savez, la traduction, la Vulgate, Elle a traduit ça comme ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain transsubstantiel. Ils veulent toujours tout spiritualiser, vous voyez? C'est une tendance humaine. Non, 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 quand Jésus parle de pain, il parle de vrai pain. Et le pain, ben, c'est le symbole de ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire à la préservation de la vie. C'est-à-dire que c'est le symbole de la nourriture, c'est le symbole de la nourriture, donc de la santé, donc du beau temps. Il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il y ait suffisamment de pluie, suffisamment de soleil pour que ça puisse bien pousser dans les champs. Et voilà, pour qu'on puisse avoir une maison qui marche bien, un bon foyer, une bonne famille. Enfin, voilà ce que c'est que le pain. Quelque chose de très pratique. Alors, on est là devant notre Dieu, humblement, on lui dit, donne-nous aujourd'hui ce qui est nécessaire à la vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas subvenir à nos besoins. Ça ne veut pas dire non plus, parce qu'on est même appelé à nourrir ceux qui ont faim. Nous-mêmes. Matthieu 25, 35. Alors, on peut se demander, alors pourquoi prier comme ça? Eh bien, juste pour exprimer notre totale dépendance de Dieu. Vous voyez, pour que Dieu soit glorifié, pour que tous les anges, les démons, toutes ces entités, tous les esprits de mort et tout ça, sachent que nous, ben, on dépend de Dieu, on en est conscient et on remet toutes choses entre les mains de Dieu qui utilise les moyens humains. Dieu, il utilise les moyens humains pour accomplir sa volonté, mais nous déclarons, nous exprimons notre totale dépendance. Et puis, quand on prie, donne-nous notre pain quotidien, ça nous apprend aussi une chose, c'est que on a à prier dès le début de la journée. Parce qu'on ne va pas dire, donne-nous notre pain quotidien avant d'aller se coucher. Donc, première chose, on commence déjà par prier le matin. C'est juste une petite parenthèse. Hein. On ne part pas comme des sauvages au travail sans en avoir parlé à Dieu, sans avoir remis notre vie entre les mains de Dieu. En tout cas, cette prière, elle exprime que la volonté du disciple de Jésus, c'est de vivre au jour le jour. Pas comme une personne qui ne fait jamais de projet, non, mais comme une personne qui vit le moment présent et puis qui le mange bien, le moment présent, comme un bon pain. Vous voyez, qui vit le moment qu'il est en train de vivre. Et puis ensuite, le pardon. Alors, c'est tout aussi nécessaire que notre pain quotidien, le pardon, tous les jours, hein. Il y a une chose importante à comprendre là. Le pardon que nous accordons aux autres ne nous donne pas le droit au pardon de Dieu. C'est pas parce que je pardonne que Dieu est obligé de nous pardonner. C'est pas dans ce sens-là, hein, que Jésus dit. Le pardon que nous accordons aux autres, eh bien, c'est une marque que nous sommes des disciples de Jésus, que nous avons été pardonnés. Voilà. C'est pas un chantage qu'on fait à Dieu. Oui, hein, mon Dieu, tu es bien obligé de me pardonner puisque je pardonne. Tu vois, là, je suis en train de le pardonner. Là, attends. Je mets cette parole de notre Père avec la parabole du serviteur impitoyable. Vous devez la connaître dans Matthieu 18, 23 à 35. Et cet homme qui avait une dette envers son maître, et puis son maître, c'est une dette énorme, et son maître lui remet la dette, lui dit, bon, on n'en parle plus. Et puis à peine il est sorti de là, celui à qui on avait remis la dette, il prend à la gorge un bonhomme qui lui devait 3 francs et 6 sous. Alors le maître dit, je n'avais pas remis toute ta dette, qui était énorme. Tu ne devais pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi-même, j'ai eu pitié de toi. Vous voyez, nous avons été pardonnés, alors pardonnons. Ne nous laissons pas tyranniser par le mal. Parce qu'une personne qui est comme ça, c'est une personne qui est tombée sous le coup du diable. Vous savez, des fois on entend des histoires à la radio, des histoires, on voit des journaux. Vous avez des trucs humains. Puis vous avez des trucs, c'est franchement diabolique. C'est franchement, il y a vraiment le mal dedans. Il y a vraiment le mal dans la personne du mal, diabolique. Je dis que c'est pour ça que le disciple, il doit prier. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Il y a une différence entre la tentation et le tentateur. Il ne faut pas se tromper là. Bon, premièrement, la Bible nous dit que Dieu ne tente pas. Alors, ne nous soumet pas à la tentation. Jacques 1, 13. Hein, ne nous tente pas. Jacques 1, 13 nous dit que Dieu ne tente pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on va lui demander de ne pas faire ce qu'il a promis de ne jamais faire? Il faut comprendre. C'est là qu'on doit comprendre. Dieu est le seul tout-puissant. Il n'y a pas d'autre puissance. Et si nous sommes tentés parfois, si nous sommes éprouvés parfois, c'est parce que Il se sert, un, de notre chair, nous sommes amorcés par nos propres convoitises, et puis si nous laissons cela, eh bien alors le tentateur peut se présenter. Vous voyez? En lisant, il y a une demande de ne pas nous exposer à la tentation, et puis il y en a une autre, mais délivre-nous du tentateur. La tentation, ça vient par les choses de notre propre nature. C'est pas le diable qui vient vous tenter au premier abord. C'est toujours nos propres convoitises. On est amorcé par ça, pas par le diable, par nos propres convoitises. Et puis ensuite, si on va trop loin, on allume un incendie, ça prend feu, puis le tentateur vient. Puis alors là, c'est beaucoup plus difficile. La tentation, finalement, c'est plutôt bénéfique pour nous. L'épreuve aussi. D'après Jacques 1-2, vous irez lire. Alors, pourquoi demander à Dieu de nous les épargner si c'est plutôt bénéfique? Bien, le désir du disciple, c'est pas d'être tenté, évidemment, mais c'est, puisque de toute façon, c'est comme ça, on doit y passer, c'est de vaincre la tentation, de réussir à passer l'épreuve. C'est ça le désir du disciple. Et la phrase de Jésus, c'est alors, c'est autre chose. Quand on lit dans le contexte biblique, dans son entier, c'est plutôt « ne permet pas que nous soyons induits en tentation et qu'elle triomphe de nous, mais délivre-nous du tentateur. » Si je suis amorcé par mes convoitises, je peux m'en sortir plus facilement, mes frères et sœurs, que si c'est le diable qui commence à s'en mêler, vraiment, vous voyez? Parce que si j'arrive pas déjà à passer par-dessus et à vaincre les tentations qui sont dues à ma propre convoitise, comment je vais pouvoir vaincre le diable? C'est pour ça que les gens disent toujours, ah, c'est le diable qui m'attendait, ta, 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 ta. Il saute une étape là. C'est d'abord tes propres convoitises. D'abord la tentation, puis après le tentateur, c'est autre chose. Alors, conscient de cela, il y a donc deux phases dans la tentation ou l'épreuve. Alors je fais appel à Dieu, lui qui est prêt toujours à nous délivrer. Je fais appel à Dieu, vous voyez? Ces trois requêtes qui sont proposées par Jésus, ça concerne l'ensemble absolu de tous nos besoins. Matériel, le pain, spirituel, le pardon des péchés, et les besoins moraux. Délivre-nous du mal. Priez cette prière en la comprenant, mes frères et sœurs. Si vous faites ça, vous exprimez votre complète et totale dépendance de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les domaines de votre vie. Et voilà ce qui glorifie Dieu. Et qui ne comprennent pas ma position au sujet de la prédestination totale, parce qu'il leur semble que voilà, alors à ce moment-là, on n'a plus de liberté et tout. De dire à Dieu, oh Dieu, je suis totalement dépendant de toi, viens à mon secours, je te le demande, non pas parce que si je ne te le demande pas, tu vas me laisser tomber, mais simplement afin que ton nom soit glorifié quand je me montre humble devant toi. Glorifier devant les esprits mauvais, ça prend une autre tournure et cela glorifie Dieu. Glorifiez le Seigneur dans toute votre vie. Cette prière que Jésus nous enseigne, c'est pour nous montrer que nous devons glorifier notre Dieu, glorifier son nom, sa personne. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs. Qu'ils réécoutent cela, qu'ils prennent des notes et qu'ils l'analysent et qu'ils y réfléchissent, qu'ils méditent ces choses et qu'ils puissent ainsi sortir plus fort au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais bientôt rentrer d'Afrique là et j'aurai beaucoup de choses certainement à vous raconter. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.